Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Radio-Canada, La Tribune et La Presse. Au programme ADN, la vapoteuse serait aussi dangereuse que la cigarette. Pékin nie vouloir fournir des armes à la Russie. Pourquoi ChatGPT est le nouveau guichet automatique? Et comment recycler les vieux jouets? Bonne écoute!
ADN, la vapoteuse serait aussi dangereuse que la cigarette. Un texte de La Presse canadienne, paru le 22 février dans la page Info de Radio-Canada. Le vapotage endommage l'ADN des cellules de la bouche autant que le fait le tabagisme, montre une nouvelle étude américaine. Les chercheurs de la faculté de médecine Keck de l'Université Southern California ont également constaté que, parmi les usagers qui vapotent exclusivement, certains dispositifs et arômes causent des dommages plus importants que d'autres. Ces résultats déboulonnent un peu plus le mythe du vapotage en tant que solution de remplacement sécuritaire à la cigarette, considère le docteur Nicolas Chadi, qui est pédiatre et clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie au CHU Sainte-Justine. On est en train de démontrer que pour les cellules plus spécifiques de la bouche, il y a des risques quand même assez similaires entre la fumée de cigarette puis l'aérosol de vapotage, a-t-il dit. Et ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on a souvent tendance à dire que le vapotage est tellement moins nocif, tellement plus sécuritaire que la fumée de cigarette. N'importe quel produit inhalé à haute température, a-t-il ajouté, va pouvoir engendrer des risques de mutation au niveau de la reproduction cellulaire, et quand on parle de mutation dans la reproduction des cellules, on veut dire vraiment risque de cancer. Les chercheurs ont réparti leurs 72 sujets adultes, qui étaient tous en bonne santé, en trois groupes. Ceux qui vapotaient actuellement et n'avaient jamais fumé la cigarette, ceux qui fumaient actuellement la cigarette et n'avaient jamais vapoté, et ceux qui n'avaient jamais vapoté ni fumé. Un échantillon de cellules épithéliales a été prélevé dans la bouche des participants. Ils ont aussi été interrogés au sujet de la fréquence et de l'intensité de leur vapotage ou de leur tabagisme. Les chercheurs ont pu établir que les dommages causés à l'ADN, en comparaison avec les non-fumeurs, étaient 2,6 fois plus élevés chez les fumeurs et 2,2 fois plus élevés chez les vapoteurs. Ce qu'on montre ici, c'est que pour les cancers de la bouche, on pourrait penser qu'il y a une augmentation du risque de cancer similaire entre les fumeurs et les vapoteurs, a souligné le docteur Chadi. On pourrait aussi penser que plus on fume ou plus on vapote, plus il y a un effet qui devient de plus en plus grand. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, il y a un effet proportionnel. Il serait aussi plausible, a-t-il estimé, de penser que les changements génétiques ne se limitent pas aux cellules de la bouche, même si l'étude ne s'est pas penchée sur la question. Les niveaux les plus élevés de dommages à l'ADN ont été mesurés chez les vapoteurs qui utilisaient des dosettes. Les vapoteuses à saveur sucrée ont été associées aux dommages génétiques les plus importants devant les vapoteuses à saveur de menthe, de menthol et de fruits. Ces dispositifs et ces saveurs comptent parmi les plus populaires auprès des jeunes, a rappelé le docteur Chadi, et les résultats sont publiés au moment où les dirigeants canadiens étudient la pertinence d'interdire les produits de vapotage aromatisés. Cette étude, poursuit le spécialiste, illustre l'importance de prévenir l'utilisation de la vapoteuse chez les enfants et les adolescents. Il faut éviter d'exposer les jeunes à ces risques-là, qui ne sont pas nuls et qui, des études comme ça nous le montrent, sont significatifs, a indiqué le docteur Chadi. Les conclusions de cette étude ont été publiées par la revue Nicotine and Tobacco Research. C'était ADN, la vapoteuse serait aussi dangereuse que la cigarette. Un texte de la presse canadienne, paru le 22 février, dans la page Info de Radio-Canada.
Pékin nie vouloir fournir des armes à la Russie. Un texte de l'Agence France-Presse, paru le 20 février 2023 dans la Tribune. Le gouvernement chinois a nié envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, accusant Washington de « jeter de l'huile sur le feu » en affirmant le contraire. À quelques jours du 24 février, un an après le début de l'invasion russe, la pression occidentale s'accroît sur la Chine qui n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive, tout en exprimant plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales. Après l'avoir affirmé la veille, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a répété lundi, le 20 février, avant de rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan, craindre que la Chine n'envisage de fournir des armes à la Russie. Il a répété avoir partagé ses inquiétudes ce week-end avec son homologue chinois Wang Yi à Munich en marge de la conférence sur la sécurité. Des déclarations ont été qualifiées de « fausses informations » par Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. « Nous n'acceptons pas que les États-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, et encore moins qu'ils exercent des pressions et des contraintes », a-t-il déclaré lors d'un point de presse régulier. « Ce sont les États-Unis et non la Chine qui envoient constamment des armes sur le champ de bataille », a-t-il ajouté. Solution politique. La communauté internationale sait clairement qui appelle au dialogue et se bat pour la paix, et qui jette de l'huile sur le feu et encourage l'opposition, a-t-il poursuivi, en appelant à soutenir une proposition chinoise pour mettre fin à la guerre. Samedi 18 février dernier, la Chine a affirmé qu'elle allait rendre publique dans les prochains jours une proposition pour trouver une solution politique à la guerre en Ukraine. Pour le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, la livraison d'armes par la Chine à la Russie constituerait une ligne rouge pour l'Union européenne. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, m'a dit qu'il n'allait pas le faire, qu'il n'avait pas l'intention de le faire, mais nous resterons vigilants, a déclaré M. Borrell lundi à son arrivée à Bruxelles, pour une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Antony Blinken est donc revenu sur le sujet. Mise en garde. La fourniture d'un soutien létal à la Russie pour aider à sa guerre d'agression en Ukraine aurait de réelles conséquences sur nos relations avec la Chine. Ellipse. Cela poserait un vrai problème à la Chine dans ses relations avec de nombreux autres pays, pas seulement les États-Unis, a-t-il mis en garde. Nous espérons donc qu'ils ne s'engageront pas dans cette voie, a-t-il conclu. La vice-présidente américaine, Kamala Harris, avait elle aussi mis en question la neutralité affichée par la Chine. les États-Unis sont troublés par le fait que Pékin a approfondi ses relations avec Moscou depuis le début de la guerre, a-t-elle souligné. Toute démarche de la Chine visant à fournir un soutien létal à la Russie ne ferait que récompenser l'agression, poursuivre les tueries et saper davantage un ordre fondé sur des règles, a prévenu la vice-présidente. Nous appelons les États-Unis à réfléchir sérieusement à leurs propres actions et faire davantage pour calmer la situation, promouvoir la paix et le dialogue, cesser de rejeter la faute sur les autres et de propager de fausses informations, a réagi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La position de la Chine sur le dossier de l'Ukraine peut être résumée en une phrase, qui est d'encourager la paix et de promouvoir le dialogue, a-t-il insisté. C'était « Pékin nie vouloir fournir des armes à la Russie », un texte de l'Agence France-Presse paru le 20 février 2023 dans la Tribune.
Pourquoi ChatGPT est le nouveau guichet automatique? Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 19 février dans La Presse. Dans les années 1960, l'économiste américain Milton Friedman a fait un voyage en Chine. Pendant son séjour, des responsables du Parti communiste lui ont fait visiter le chantier d'un canal en construction. Friedman a été surpris de voir qu'au lieu des pelles mécaniques et d'autres machineries modernes, les ouvriers travaillaient avec de simples pelles. Il a demandé pourquoi c'était le cas. « Vous ne comprenez pas, » lui a répondu le fonctionnaire. « C'est un programme d'emploi. » Ce à quoi Friedman a rétorqué. « Oh, je pensais que vous essayiez de construire un canal. Si ce sont des emplois que vous voulez, » alors vous devriez leur donner des cuillères, pas des pelles. Cette anecdote m'est venue en tête au cours des dernières semaines, alors que, comme bien des gens, j'ai pu me familiariser avec ChatGPT, le nouveau moteur d'intelligence artificielle capable de répondre à des questions pointues, d'écrire du code, de créer des articles, de résumer des textes, etc. Menace sur le plan de l'emploi. En parlant du phénomène autour de moi, je constate que si ChatGPT fascine, il provoque aussi de la peur. Pas tant sur le plan d'une domination mondiale dictatoriale de l'intelligence artificielle, plutôt sur le plan de l'emploi. Comme les responsables du Parti communiste chinois dans les années 1960, nous sommes inquiets des effets que pourrait avoir une technologie un peu trop puissante sur l'emploi, et notre instinct nous pousse à vouloir préserver le statu quo. Surtout que des exemples concrets commencent à émerger. Récemment, un avocat spécialisé en droit successoral en Nouvelle-Zélande a demandé à ChatGPT de lui rédiger un testament. Le résultat était si impressionnant qu'il en a conclu que sa carrière était probablement foutue. Si j'avais à parier, je dirais que cette crainte ne se réalisera pas. Et que, au contraire, des outils comme ChatGPT seront positifs pour l'emploi et l'économie. J'ai deux chiffres pour appuyer ce que j'avance. 3,9% et 3,4%. Il s'agit respectivement du taux de chômage au Québec et du taux de chômage aux États-Unis. Dans les deux cas, il s'agit d'un niveau tellement bas qu'il faut remonter plusieurs générations en arrière pour trouver des comparatifs. Pensez-y. Malgré des décennies d'amélioration technologique phénoménale dans littéralement tous les domaines de la société, toute personne qui veut un emploi peut aujourd'hui en décrocher un. C'est qu'au lieu de nous appauvrir, la technologie permet aux gens de diriger leurs efforts vers des tâches plus productives, ce qui fait augmenter notre niveau de vie. L'exemple le plus clair est celui du guichet automatique. Quand les premiers guichets automatiques bancaires ont fait leur apparition aux États-Unis dans les années 1970, tout le monde s'est vite mis à craindre pour les emplois des caissiers de banque. Pourquoi embaucher un caissier alors qu'une machine peut effectuer le travail plus vite, pour moins cher, sans erreur, sans jamais tomber malade, ni prendre de journée de congé? Les emplois de caissier ont effectivement diminué dans les succursales. James Besson, économiste à Harvard, a calculé que la succursale moyenne d'une banque en milieu urbain, aux États-Unis, employait 21 caissiers avant l'arrivée massive des guichets automatiques, un nombre qui est tombé à 13 après leur implantation. L'automatisation a réduit les frais de fonctionnement d'une succursale. Comme les succursales coûtaient moins cher à exploiter, il devenait plus facile d'en ouvrir beaucoup afin de servir un nombre grandissant de clients actuels et potentiels. Et c'est ce qui s'est passé. Résultat, le nombre d'emplois de caissiers de banque est en hausse aux États-Unis depuis cette époque et a même connu une croissance plus grande que celle de l'emploi en général. Selon les travaux de M. Besson, des 270 emplois inscrits dans le recensement fédéral américain de 1950, un seul a été éliminé à cause de l'automatisation, opérateur d'ascenseur. Pour revenir à l'exemple de l'avocat qui a fait rédiger son testament par ChatGPT, à peine 48 % des adultes québécois ont un testament aujourd'hui. Peut-être que l'intelligence artificielle va faire grimper ce nombre au cours des prochaines années et que ce sont les avocats et les notaires qui vont en profiter. Un FNB artificiellement intelligent. L'intelligence artificielle s'immisce partout, même dans les fonds négociés en bourse FNB. Une lectrice me demandait récemment ce que je pensais du premier FNB propulsé grâce à l'intelligence artificielle. Il s'agit de l'AI Powered Equity ETF, AIEQ, lancé en 2017 par la société FinTech EQBot et qui utilise l'intelligence artificielle pour tenter de prédire la direction de certains titres boursiers et en profiter. Des analystes ont noté que le fonds AIEQ a fait légèrement mieux que le S&P 500 depuis le début de l'année, 11 % comparativement à 8 %. Or, l'an dernier, le fonds avait davantage chuté que le S&P 500, moins 32 % comparativement à moins 18 %. Bref, il est beaucoup trop tôt pour désigner un vainqueur et il faut avoir le cœur bien accroché pour investir avec un tel robot, dont les frais de gestion annuels sont quand même assez élevés pour un FNB, 0,75 % comparativement à 0,09 % pour un FNB qui suit le S&P 500. À suivre. C'était « Pourquoi ChatGPT est le nouveau guichet automatique? » Un texte de Nicolas Bérubé paru le 19 février dans La Presse. Comment recycler les vieux jouets? Un texte de Clémence Delfis, paru le 13 février 2023 dans La Presse. De nouveaux objets de plastique s'accumulent dans les tiroirs des familles québécoises. Faute d'autres solutions, ces objets feront partie du poids en kilogrammes d'ordures ménagères produites par ces foyers. Ce sont des jouets. Vite oubliés, trop vite jetés. Quand l'on tape « jouets » dans la barre de recherche de « Ça va où? », application lancée par Recyc Québec pour conseiller les consommateurs sur le recyclage, deux possibilités apparaissent. Éco-centre pour le recyclage ou organisation de réemploi. En fonction depuis 2006, Renault Jouet est l'une de ces organisations de réemploi. Sa présidente, Annie Asselin, propose de donner une seconde vie aux jouets usagés. Selon son site, l'organisation aurait déjà récupéré plus de 1,2 million de jouets. De notre côté, c'est plutôt de la revalorisation. On lave les jouets, on les complète, précise Annie Asselin. Ces jouets ne sont généralement pas cassés. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan de la réutilisation au Québec. La durée de vie des jouets est souvent longue et ces produits peuvent être réutilisés. Note Sophie Langlois-Blouin, vice-présidente à la performance des opérations, Recyc Québec. Revalorisation? Réutilisation? Mais qu'en est-il des jouets en fin de vie? Ceux morts d'usure? Le plastique des jouets est irrécupérable, tranche Annie Asselin. Les jouets sont souvent un assemblage de pièces et la majorité de ces pièces sont fabriquées avec des plastiques différents. Il y a donc un problème de séparation des matériels, nous dit Denis Rodrigue, professeur au département de génie chimique de l'Université Laval. Les plans d'action se centrent davantage sur les autres R, réparation, réutilisation. Tout de même, des financements sont possibles pour des projets qui encouragent la récupération et le recyclage de certains produits, souligne Sophie Langlois-Blouin. Nous avons appuyé un projet de récupération des frisbees, par exemple, mais c'est un produit qui n'est constitué que d'un seul type de plastique. Ailleurs, le jouet est à l'origine de débats plus avancés et de politiques particulières. En France, une REP, filière à responsabilité étendue des producteurs, a été mise en place en janvier 2023. Avec la REP, les producteurs qui mettent des jouets en marché ou qui les distribuent vont devoir payer une éco-contribution pour participer aux frais que coûte la fin de vie d'un jouet. Les filières REP financent aussi la prévention, notamment le développement du réemploi, de la réparation, explique Alice Elfassi, responsable des affaires juridiques de l'association française Zero Waste, investie dans la lutte pour le zéro déchet. Le plan d'action français comprend des objectifs plus ou moins ambitieux. D'ici 2024, 28 % des jouets devront être collectés indépendamment des autres déchets, dans les magasins de grande distribution, par exemple. Les objectifs de recyclage sont, quant à eux, fixés à 35 % des jouets non réparables recyclés en 2024 et à 55 % en 2027. S'ajoutent à cela des objectifs de réemploi de 6 % en 2024 et 9 % en 2027. Ces ambitions sont nécessaires, mais encore trop faibles ou contradictoires, selon Zero Waste. L'objectif de réemploi ne nous semble pas assez important pour une filière déjà développée comme celle de la réutilisation des jouets, note Alice Elfassi. À la fois, les REP permettent d'obtenir des résultats, mais encourage aussi la surproduction. C'est sur la mise en marché des produits neufs que la taxe s'applique. Au Québec, les filières à responsabilité étendue du producteur ne sont pas ignorées, mais seulement appliquées de manière spécifique. Il y a certains jouets déjà visés par des programmes de responsabilité étendue du producteur, les consoles de jeux, les jouets avec des piles, par exemple, souligne Sophie Langlois-Blouin. Au Québec, on n'a pas encore d'études précises nous permettant de savoir ce qui se retrouve à la récupération en matière de jouets. Le portrait est manquant. Poursuit tout de même la vice-présidente à la performance des opérations de Recycle Québec. La complexité des jouets encourage donc la création d'une filière consacrée à leur collecte et à leur traitement. Une tâche ambitieuse qui ne semble pas être une priorité face à l'accumulation d'autres déchets. Sans vouloir minimiser, le jouet reste marginal en termes de tonnage, souligne Sophie Langlois-Blouin. Les écocentres sont déjà pleins de produits plus problématiques que les jouets, note Denis Rodrigue. Le professeur préconise davantage l'application du modèle français d'une collecte des déchets à la source, chez les grands diffuseurs de jouets, par exemple. Il y a aussi l'enjeu de la mise en place d'un fonds d'aide pour la réparation avec une participation imposée des metteurs en marché. Pour l'instant, ça n'a pas été mis en œuvre pour les jouets, confirme Alice Elfassi. C'était « Comment recycler les vieux jouets », un texte de Clémence Delfis, paru le 13 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vousyvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Robert Chartier à la lecture, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zarpman à la présentation et au montage.